sont à point.
Welcome.
Bienvenidos.
Konnichiwa.
Saluete.
Bon dia.
Vous êtes sur Radio U et vous écoutez Radio Calliope, le rendez-vous mensuel sur les langues et en langue de Radio U et de l'UBO. Aujourd'hui, se joint à nous une nouvelle voix pour animer l'émission. Théo Rimbaud m'accompagne au studio. Bonjour Théo.
Bonjour Laura. Pour ce quatrième numéro de Radio Calliope, nous mettons à l'honneur l'italien et l'espagnol, mais sous l'angle d'une thématique bien particulière. Le 8 mars dernier, vous le saviez, c'était la journée internationale du droit des femmes. Un excellent prétexte pour nous pour dédier notre émission à la condition des femmes et à la lutte pour l'égalité des sexes.
Pour aborder ce sujet, nous irons à la rencontre d'une enseignante d'italien et d'étudiantes italiennes en Erasmus à Brest qui nous parleront de la condition des femmes en Italie. Nous partons ensuite en Amérique du Sud pour une interview en exclusivité avec des militantes argentines du mouvement féministe Ni Una Menos.
Pour ponctuer notre émission, les étudiants d'italien nous ont préparé trois portraits de femmes italiennes engagées à découvrir tout au long de notre émission. Et comme d'habitude dans l'émission, Laura nous propose une recette de cuisine. Aujourd'hui, nous partirons au Chili. N'oubliez pas de rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour être au courant de tous les événements sur les langues à Brest et aux alentours dans notre section « L'actualité des langues ».
Le sujet de notre émission, comme vous l'avez compris, c'est les droits des femmes et le féminisme en Italie et en Amérique latine. Mais Radio Calliope reste votre rendez-vous mensuel sur l'apprentissage des langues. On vous le disait il y a quelques instants, aujourd'hui on s'intéresse à l'italien et l'espagnol. Afin de vous présenter la pratique de l'italien à l'université et pour vous introduire la question du féminisme en Italie, nous accueillons sur le plateau aujourd'hui Filomena Tino, enseignante d'italien à la faculté Victor Segalin.
Bonjour Filomena, bienvenue sur Radio Calliope.
Bonjour Théo, bonjour Laura.
Alors, tout d'abord, une première question, qu'est-ce qui vous a emmené à apprendre l'italien, à venir en France pour enseigner l'italien ?
Bah, moi, j'ai toujours aimé le français depuis toute petite, donc j'ai décidé de faire des études de français. Je suis arrivée ici il y a plus de 20 ans déjà, comme assistante dans les lycées et collèges, et puis je ne suis plus répartie. Au lieu de répartir, je suis restée ici, j'ai passé les concours dans l'enseignement, et puis voilà, j'ai décidé de devenir enseignante d'italien pour les français.
D'accord, donc vous aviez choisi la France, mais est-ce qu'il y a d'autres pays qui parlent l'italien, à part l'Italie ?
L'italien est parlé comme langue première en Italie, une partie de la Suisse, mais comme langue seconde, il y a beaucoup d'apprenants, beaucoup de gens qui parlent et maîtrisent l'italien partout dans le monde.
Donc il y a un rayonnement assez fort de l'italien dans le monde ?
Assez fort, oui.
D'accord, donc... Comme on le disait, vous y êtes professeur donc, à la faculté Victor Segalin. Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent apprendre l'italien à l'université ?
Oui, on a plusieurs centaines d'étudiants chaque année qui décident de faire de l'italien en découverte de cette langue. Nous avons des étudiants qui ont déjà étudié l'italien au lycée, au collège, et sont une minorité. Et une grande majorité, c'est les étudiants qui veulent découvrir une nouvelle langue, qui n'ont pas pu justement l'apprendre au collège et lycée par manque de professeurs ou de choix dans leur collège et lycée. Et donc, ils veulent découvrir cette langue.
D'accord. Donc vous discutez avec eux. Et comme vous le disiez, donc ils découvrent l'italien. Et quelle est leur principale motivation ? C'est juste découvrir la langue ou est-ce qu'il y a un attrait pour la culture italienne ?
Alors, la motivation des Français pour apprendre l'italien est toujours la même depuis des siècles, en fait. L'italien a toujours eu la cote un peu en France, avec des hauts et des bas dus aux problèmes, après, aux alliances sociopolitiques, aux problèmes liés à la guerre et tout ça. Mais l'italien était déjà considéré en 1700 comme une langue de choix pour apprendre la littérature, les beaux-arts et l'histoire. Après, il y a aussi, à part le facteur culturel, il y a aussi des motivations touristiques, économiques. L'Italie est un partenaire important de la France et donc on apprend l'italien comme on l'apprenait avant, aussi pour des raisons diplomatiques, politiques et économiques, pour travailler dans l'économie en relation avec les entreprises italiennes. Donc c'est une langue qui est demandée dans le monde du travail parce que déjà il y en a beaucoup moins qui étudie l'italien, et puis il y a toujours ces échanges qui sont importants entre nos deux pays.
D'accord, donc effectivement un intérêt aussi à apprendre l'italien, mais on s'en rend compte quand même, l'espagnol est beaucoup plus enseigné peut-être au détriment de l'italien, qui lui est un choix, comme vous le soulignez juste avant, qui arrive plus tard en fait. Mais pensez-vous que l'espagnol est en général plus populaire que l'italien ?
Après, c'est des choix aussi, des phénomènes de mode, je dirais, ou des choix liés aux économies. Ça, l'espagnol étant parlé dans beaucoup plus de pays, beaucoup de parents, d'élèves, au moment de choisir les langues, se disent que l'espagnol va être plus utile finalement pour dans le monde du travail que l'italien. Mais effectivement, après, c'est je dirais, c'est un faux problème. En même temps, l'espagnol et l'italien, c'est en quelque sorte deux langues qui sont, dans l'opinion commune, un peu mises sur le même plan au niveau de l'apprentissage. Et ça, c'est un débat qui est ancien. Déjà en 1900, quand l'agrégation des langues septentrionales, comme on les appelait à l'époque, a été créée, en fait, le ministère a décidé de créer une seule agrégation pour l'italien et l'espagnol. Donc les professeurs devaient à la fois maîtriser l'italien et l'espagnol, les deux littératures. Donc après 8 ans, suite aux nombreuses protestations des enseignants, les deux agrégations étaient séparées. Mais voilà, il y avait toujours ce préjugé, l'italien et l'espagnol, c'est quasiment la même langue, et donc c'est quasiment pas la peine de les étudier.
Ouais, donc du coup, cette ressemblance en fait a un peu joué au bout du compte au détriment de l'italien.
Il a joué au détriment de l'italien, oui, comme a joué au détriment aussi, à un moment donné, on apprenait en fait les langues du Nord, l'anglais et l'allemand, parce qu'on considérait que c'était des langues plus difficiles et donc plus adaptées pour les bons étudiants. Et donc, c'était au détriment là, des deux langues, de l'espagnol et de l'italien, qui ont baissé dans la popularité. Mais après, bon, l'espagnol, tant mieux, est revenu à la mode. Là, il faut faire des efforts pour que l'italien soit considéré à sa juste valeur dans l'enseignement français.
D'accord, très bien. Donc, à voir donc. Mais aussi, on se posait la question, quels sont les points communs entre les sociétés hispanophones et italophones ?
Je pense qu'il y a beaucoup de similitudes entre la culture italienne et la culture hispanique, que ce soit de l'Espagne ou des pays latino-américains. C'est à la fois, je pense que c'est plutôt un atout, hein. Pour nous, les enseignants, par exemple, ça nous permet de créer des synergies ou des projets d'études communs. Par exemple, cette année, avec ma collègue Brigitte Moraga, nous avons créé un projet commun pour nos étudiants d'L3 et de Master, autour du mythe de Don Juan. Donc on l'a affronté du point de vue de la littérature, de l'histoire, mais aussi de la société. Ce qui nous a permis également de réfléchir au concept du Latin Lover, de ce mythe de la virilité, et aussi de la situation actuelle des femmes en Italie et dans les pays hispanophones.
Écoutez, c'est très intéressant que vous nous en parliez, puisqu'effectivement, on a quand même beaucoup de clichés, de préjugés sur la société italienne, notamment avec une société un peu vue comme une société machiste. Et du coup, on a décidé de se faire notre propre avis. On est allé à la rencontre des Italiennes à Brest. Laura est allée justement leur poser les questions.
Pour en savoir plus sur la condition des femmes en Italie, j'ai rencontré Anita et Lavinia, deux étudiantes en Erasmus à Brest, et Elena, lectrice d'italien à la fac des lettres. Nous leur avons posé 3 questions. Est-ce que la société italienne est sexiste ?
Altri passi da fare, l'uguaglianza non è completa tra uomini e donne, ma in ogni caso, almeno per la mia parte di vissuto, non sento questa inferiorità, insomma, io non mi sento inferiore agli uomini e non mi sento neanche di essere trattata in modo come una persona inferiore.
Anita pense qu'il y a d'autres pas à faire pour atteindre l'égalité. Mais d'après son expérience personnelle, elle n'a jamais eu le ressenti d'être inférieure et elle n'a jamais été traitée d'inférieure par rapport aux hommes. Lavinia, elle a un autre ressenti.
Certamente, purtroppo, ci sono delle differenze nel trattamento economico perché a parità di qualifica gli operai uomini ricevono un salario più alto rispetto a quello delle colleghe.
Lavinia constate une différence de traitement, surtout dans le monde du travail, où les femmes et les hommes à parité de titre et d'expérience ne touchent pas le même salaire. Pour Elena, il faut prendre en compte le passé italien, qui est fortement lié à une histoire machiste.
Molto di quello che si pensa sia anche frutto della storia italiana e della anche un po' del pregiudizio forse degli stranieri verso gli italiani. Nonostante questo, è vero che per esempio si fatica ancora ad accettare che alcune cariche possano essere declinate al femminile. Parlo ad esempio del fatto che si storce un po' il naso quando si parla di ministra e invece il ministro è accettato da tutti.
Même si aujourd'hui cette mauvaise image persiste à l'étranger, les choses ont changé, bien qu'il y ait encore des problèmes. Et ça se voit par exemple au niveau linguistique, où les fonctions politiques ne sont pas déclinées au féminin, comme le nom « ministre » en italien, « ministro », n'est pas bien vu quand utilisé au féminin « ministre ».
Esiste ancora molto l'immagine di donna oggetto, ad esempio nei video musicali o nelle trasmissioni, non so, nei quiz televisivi dove ci sono le veline e anche nelle pubblicità stesse.
On a posé la question à Anita et à Lavinia Elena, comment sont représentées les femmes dans les médias? Pour Anita, dans les médias plus qu'ailleurs, il y a encore l'image de femme objet, surtout à la télévision, mais aussi dans les vidéos musicales et la publicité en général. Elena nous rappelle l'histoire récente de l'Italie.
Per quanto riguarda le donne nei media, abbiamo avuto un lungo dibattito in Italia fino a qualche anno fa, sotto il governo Berlusconi. Il ruolo della donna in televisione in particolare era quello proprio di presenziare a livello estetico, ma non prendeva mai la parola.
Elle souligne qu'il y a eu des forts débats jusqu'il y a quelques années dans la période Berlusconi, où la femme à la télévision n'avait qu'un rôle ornemental et elle prenait rarement la parole. Mais comme le souligne Lavinia, ce n'est pas un problème propre à l'Italie.
Allora, purtroppo i media, non solo in Italia ma anche in altri paesi, hanno delle idee preconcette sulle donne. Del resto anche in altri paesi avanzati l'uso che si fa delle immagini femminili a volte tra virgolette scandaloso, perché per esempio per pubblicizzare un rossetto o una macchina o altri prodotti di facile consumo si usano foto di donne giovani, graziose, famose e molto spesso svestite.
Dans d'autres pays considérés comme avancés, le problème est le même. Elle donne l'exemple de la publicité où l'on utilise les corps de femmes pour mieux vendre des produits de consommation. Malgré cela, pour Elena, les choses sont en train de changer.
Io penso che le cose ora siano cambiate sensibilmente. Non penso che nei media sia il ruolo della donna sia ancora quello. Io ci sono casi di donne, tantissimi esempi di donne ora in televisione che hanno un posto di tutto rispetto, come gli uomini, giornaliste, presentatrici.
Les femmes sont plus valorisées qu'il y a quelque temps. Maintenant, on leur accorde la crédibilité au même titre que les hommes. Et on voit un plus grand nombre de femmes présentatrices et journalistes à la télévision. Qu'est-ce que vous en pensez de la lutte féministe aujourd'hui en Italie?
Dato che la situazione in Italia non è così grave, almeno per ciò che mi circonda, insomma, nella mia università, nel mio gruppo di amiche, non parliamo molto spesso di questo argomento.
Comme Anita ne pense pas que la situation en Italie soit grave, elle n'en parle pas souvent autour d'elle et ses amis non plus. Lavinia, en revanche, elle a une autre vision des choses.
Sì, ho molti colleghi all'università che partecipano a manifestazioni, che a volte scrivono anche degli articoli per giornali locali e che hanno molto a cuore la questione dei diritti delle donne.
Elle et beaucoup de ses amis à l'université tiennent à cœur le sujet. Ils participent à des manifestations et certains d'entre eux écrivent des articles pour les journaux locaux. Elena met l'accent sur les mouvements au niveau national.
Ci sono oggi tantissimi movimenti in Italia che si battono per la liberazione delle donne e per i diritti delle donne. Molti di questi movimenti ora sono riuniti sotto un grande movimento nazionale che è non una di meno, che riprende il movimento sudamericano. In particolare in occasione dell'8 marzo sono organizzati grandi scioperi con una partecipazione di uomini e donne. Veramente è stato il primo anno in cui l'8 marzo ha finalmente avuto il suo riscatto, quindi non più una festa della donna in generale, ma la festa per la lotta per i diritti delle donne.
Les différents et nombreux mouvements féministes italiens se sont regroupés sous le nom de Non Una Di Meno, qui reprend le mouvement féministe sud-américain Ni Una Menos. Le 8 mars dernier, ce nouveau mouvement féministe transversal a organisé une grève des femmes et une manifestation où les femmes et les hommes ont participé. Ça a été l'occasion de rétablir la journée du 8 mars comme un véritable jour de lutte. Il ne s'agit plus de le considérer comme une célébration de la femme en tant que femme, mais bel et bien de sensibiliser la société autour de la lutte pour les droits des femmes.
Alors, nous venons d'entendre donc ces femmes sur leurs ressentis sur différents sujets. Le premier sujet était le machisme dans la culture italienne. Philomena, vous nous disiez que vous étudiez un peu aussi ces sujets-là. Quelle est votre impression, justement, votre impression personnelle par rapport à cette société italienne que l'on dit machiste ?
Les interventions d'Anita Lavinia, elles étaient très intéressantes et je les partage en grande partie. La violence contre les femmes doit rester une priorité du gouvernement italien. C'est bien le cas. La présidente de la Chambre des députés, Laura Boldrini, est très sensible à cet argument. Et il est intéressant de noter aussi que les Italiens utilisent depuis quelques années le terme de « féminicidio ». Pour indiquer ce type de homicide de genre. Donc c'est pas que des homicides normaux.
C'est des féminicides, on dit ça en France.
Oui, sauf qu'en France, je crois pas que le terme soit très employé,
non, hein,
contrairement aux pays hispanophones et puis anglais aussi. Donc en italien, on recense maintenant pratiquement toutes les semaines les cas de féminicidio. Et donc effectivement, ils sont un peu en diminution par rapport à il y a quelques années, mais les chiffres restent toujours très élevés. Qu'en 2017, il y a une femme, plus d'une femme par semaine qui a été tuée parce que c'est une femme. Mmh. Hein, donc par les maris, ex-compagnons ou simplement dans les cas de viol. Mmh. De viol mal terminé. Donc voilà, c'est aussi effectivement cette image de la femme dans les médias qui reste encore à améliorer. Et surtout au niveau régional, il y a beaucoup de publicité quand vous allez dans les villes italiennes de marques régionales qui utilisent des publicités vulgaires et offensives envers les femmes. Pareil dans les émissions télé, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, comme Elena le soulignait. Mais encore, il y a deux semaines, une émission télé présentée le samedi après-midi, qui a ouvert avec le thème « Pourquoi les hommes italiens doivent préférer les femmes de l'Est ?» Et il y avait une liste des raisons. Et parmi lesquelles que les femmes de l'Est acceptent la trahison, sont toujours bien habillées à la maison, s'occupent du ménage, etc., etc. Donc, et la chose positive, c'est que cette émission a été tellement critiquée, submergée de courriers de téléspectateurs qui accusaient la chaîne, donc la chaîne principale, la RAI, de racisme et de sexisme, que la direction de la RAI a décidé de la supprimer, cette émission. Donc je pense que c'est une très bonne réaction du public italien, les hommes et les femmes en même temps. Certes, beaucoup reste encore à faire.
D'accord, donc encore des progrès à faire, vous le soulignez.
Oui.
Et vous qui connaissez aussi la culture italienne comme la culture française, c'est quoi votre ressenti, votre comparaison que vous pouvez faire entre les deux?
Je pense que l'Italie est pâtie un peu de ce préjugé, de se dire, voilà, en classe, quand je demande aux étudiants de me dire qu'est-ce qu'ils pensent de la culture italienne, souvent il y a cette idée, voilà, les hommes italiens, c'est des machos. Honnêtement, je ne pense pas que les hommes italiens soient plus machos que les hommes français. Simplement, ils sont plus dans... enclin à faire des compliments aux femmes ou à les déranger dans la rue peut-être, mais après le fond du problème reste le même. Quelle est l'image qu'on a des femmes et que fait la société pour lutter contre cette image négative qu'on a des femmes. Donc, le problème du féminicidio reste le même en France, je crois, sauf que peut-être on en parle moins dans les médias français, alors que les médias italiens ont compris l'importance du problème et luttent aussi pour qu'il y ait une visibilité de ces femmes maltraitées et tuées par leurs compagnons, leurs maris, etc.
D'accord, donc ensuite, on évoquait aussi avec Elena, et Elena nous en parlait donc dans son témoignage, du mouvement Non Una Di Meno, donc qui portait le mouvement de la lutte féministe en Italie. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces groupes féministes, de leur combat au quotidien pour le droit des femmes en Italie?
C'est très bien, je peux en penser qu'il y a du bien. Et il ne faut jamais oublier que les femmes italiennes souffrent en priorité des problèmes économiques. Dès qu'il y a la crise, le chômage sont les premières touchées. S'ils ont un enfant, ils sont obligés de quitter le travail. S'ils ont un âge de faire un enfant, les entreprises ne les prennent pas parce qu'elles sont potentiellement mères. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore claires dans l'opinion publique. Il y a par exemple le Fertility Day organisé en septembre dernier par le ministère de la Santé, qui était à l'origine une très bonne idée, c'est-à-dire faire réfléchir la population sur le problème de l'infertilité. Les Italiennes font très peu d'enfants, mais en réalité est devenue une propagande presque néo-fasciste sur le devoir de donner des enfants à la patrie, alors qu'en Italie, rien n'est fait encore, ou peu est fait, pour garantir aux femmes l'accès à leurs droits une fois qu'elles tombent enceintes. Donc c'est très bien que ces associations existent, et il faut continuer à s'occuper de la situation des femmes.
Oui, c'est un sujet qui vous intéresse, on le sent bien quand vous en parlez.
Forcément.
C'est un sujet en plus que vous abordez en cours, vous l'avez vu juste avant, vous l'abordez avec vos élèves. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, donc comme je disais tout à l'heure, on a décidé avec Brigitte, donc ma collègue d'Espagnol, de travailler sur cette thématique, à l'origine une thématique littéraire, donc le mythe du Don Juan, en espagnol à partir de l'œuvre de Tirso de Molina, puis en italien avec le livret de Da Ponte, pour l'opéra de Mozart, mais finalement on s'est rendu compte que ce mythe du Don Juan soulevait aussi dans les rapports des hommes et des femmes des questions sur la société italienne, la société espagnole ou argentine ou latino-américaine, et soulevait le problème de comment les hommes voient les femmes. Donc ça nous a permis de nous pencher sur ces arguments sociopolitiques, socioculturels. Moi en particulier, j'ai aussi fait la comparaison entre la mentalité fasciste qui exaltait la virilité au détriment des droits des femmes finalement. Donc les femmes étaient pour les fascistes considérées que dans leur rôle d'épouse et de mère, et même si le fascisme est terminé, on ressent encore des restes de cette mentalité dans l'opinion commune. Donc il faut lutter contre ça, et donc en prendre connaissance, nous avons travaillé à partir de deux romans d'un écrivain qui a vécu pendant le fascisme et a écrit la version de Don Juan Sicile, donc pour réfléchir sur ce que c'est la femme dans la mentalité italienne et quel rôle les hommes sont disposés à leur donner.
Merci beaucoup Philomena pour cette interview. Vous écoutez toujours Radio Calliope sur le 101.1. Nous faisons tout de suite une pause musicale avec le groupe de punk italien Bambole di Pezza et le titre Le Streghe. Cette chanson reprend dans le refrain le slogan du mouvement féministe italien des années 70, Tremate, tremate, la streghe sont tornate, qui se traduit par Tremblez, tremblez, les sorcières sont de retour.
Oh,
Vous êtes toujours sur Radio Calliope, l'émission 100% langue. Ce mois-ci, les étudiants d'italien d'Elena Perello nous ont préparé des portraits de femmes italiennes engagées à découvrir. Mona Instin, Margot Quere et Maeva Rotaio nous invitent à découvrir Carla Lonzi, critique d'art et écrivaine italienne, théoricienne et fondatrice du collectif féministe des années 70, Rivolta Femminile.
Carla Lonzi è nata nel mezzo dell'epoca fascista, quando Mussolini era al potere ma non è d'accordo con le sue idee.
Saluto al Duce!
Mussolini dice che le donne erano sottomesse agli uomini. La donna non lavora e sta a casa, deve essere una casalinga.
Carla era molto conosciuta per le sue esposizioni, i suoi interventi alla radio, i suoi libri, ma la ricordiamo soprattutto perché è una delle rappresentanti più importanti del movimento femminista italiano negli anni 70. Per esempio, fonda Rivolta Femminile con Carla Accardi e Elvira Banotti. Questo manifesto contiene dei pensieri più significativi intorno all'idea generale del femminismo. Nel manifesto gli autori hanno scritto molte frasi in materia di diritti sulle donne.
Cominciamo a rifiutare questa e qualsiasi società che si basi sullo sfruttamento e sulla divisione dei compiti e del lavoro in base al sesso.
Carla Lonzi vuole una nuova vita dove le donne non sono sottomesse agli uomini. Vuole difendere i diritti delle donne e diventare una donna libera. Pensa che la donna deve avere un posto importante nella società. È in parte grazie a lei che la visione della donna è evoluta oggi in Italia.
Se finché siamo donne, paura non abbiamo.
Possiamo citare una frase famosa di Carla Lonzi che esprime bene le sue idee. La donna non va definita in rapporto all'uomo. L'uomo non è il modello a cui adeguare il processo della scoperta di sé da parte della donna.
E noi altri lavoratori, e noi altri lavoratori.
Vous écoutez toujours Radio Calliope sur Radio U. On vient d'écouter le portrait de Carla Lonzi. Et comme on a pu voir avec Filomena, il y a quand même certaines similitudes, entre la culture italienne et hispanique, dont la lutte des femmes en fait partie.
Voici notre constat. On est en 2017 et notre société continue à opprimer et violenter les femmes. Aux États-Unis, le président républicain Donald Trump est bien connu pour ses propos machistes. L'une de ses premières mesures a été de couper tout financement de l'État dirigé aux ONG pro-avortement. N'oublions pas qu'en Europe, la Pologne, Chypre, l'Andorre et l'Irlande prévoient jusqu'à 3 ans de prison pour la femme et le médecin qui pratiquent l'IVG. En Amérique latine, le Chili est l'un des pays avec les lois les plus punitives en matière d'avortement. Les femmes qui ont des complications dues à un avortement clandestin préfèrent ne pas se rendre à l'hôpital car les médecins sont tenus de les incriminer. Elles risquent jusqu'à 5 ans de prison. Dans ce contexte alarmant, ce n'est pas seulement à nos choix en tant que femmes que la société machiste s'attaque. Mais il est aussi le fruit d'un phénomène mortel, le féminicide. En Argentine, une femme est tuée toutes les 18 heures. C'est cette situation accablante qui a fait éclater une mobilisation le 3 juin 2015. Elle s'est vite répandue dans toute l'Amérique latine avec des manifestations, des grèves, des actions regroupées sous le slogan « Ni una menos », pas une de moins, c'est-à-dire pas une de moins parmi nous. Le 8 mars dernier, on a vu la première grève internationale des femmes, une date historique pour la lutte féministe. En exclusivité, nous avons aujourd'hui une interview avec des militantes argentines du mouvement Ni Una Menos de Mendoza. Elena Garel et Lucien Press, étudiantes d'espagnol à l'UBO, ont interviewé Valeria Martinez et Marina Femenia.
Muy buenos días a todos y a todas. Estamos en comunicación vía Skype con la Argentina para hablar con Valeria Martinez, integrante de la mesa de organizaciones de Ni Una Menos en la provincia de Mendoza, ex-titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo en Mendoza, periodo 2012-2015. Buenos días, Valeria.
Y también con Marina Femenia, militante feminista, integrante de la Mesa de Organizaciones de Ni Una Menos en la provincia de Mendoza, ex-diputada provincial en la legislatura de Mendoza, periodo 2011-2015.
Buenos días, Marina.
Buenos días.
Primero que nada, muchas gracias por haber aceptado comunicarse con nosotras. Para empezar, ¿podríais contarnos ¿Cuál es el trabajo de la agrupación de Ni Una Menos? ¿Hace cuánto tiempo fue creada y por qué?
Pouvez-vous nous parler de votre association Ni Una Menos? ¿Cómo y por qué a-t-elle été créée?
Bueno, en realidad es un colectivo de mujeres, el Ni Una Menos, y surge el 3 de junio del 2015, después de un asesinato en la provincia de Santa Fe, en el cual asesinaron a una chica que tenía 16 años, se llamaba Chiara Páez. Esta chica fue asesinada por su novio, y esto generó en la sociedad argentina, y especialmente en el colectivo de mujeres, activistas mujeres, artistas y periodistas, organizarse y salir a la calle convocando a esta manifestación que se llamó Ni Una Menos. Nosotros en Argentina veníamos viendo asesinatos y femicidios constantes, por lo cual esto fue una alerta y fue el desencadenante por el cual este colectivo de mujeres se organizó y salió en las calles, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino también en el interior del país, y se marcharon alrededor de 300.000 personas solo en la provincia de Buenos Aires.
En fait, c'est un ensemble d'associations qui luttent pour les droits des femmes. Elles sont regroupées dans un collectif qui a vu le jour le 3 juin 2015. Bien que depuis quelques années le nombre d'assassinats augmente, celui de Chiara Páez, une jeune fille de 16 ans tuée par son petit ami, fut l'élément déclencheur de notre lutte. C'est pourquoi nous sommes descendus dans la rue. Il y a eu de nombreuses manifestations dans le pays, et notamment à Buenos Aires, où nous étions 300 000.
Et el 8 de marzo fue un día importante para todas las mujeres, pero especialmente para vosotras en Argentina. ¿Podríais decirnos por qué se vivió de manera diferente ese año?
Le 8 mars fut une journée importante pour toutes les femmes, mais surtout pour vous en Argentine. Pourquoi cette année fut différente?
Sí, este año se vivió de manera diferente en primer lugar porque fue el primer paro internacional de mujeres. Como ustedes saben, hubo muchos países que se adhirieron a la marcha, no solo acá en Latinoamérica, sino en Europa y Estados Unidos. Y fue muy importante porque las mujeres pudimos, por primera vez en la historia, hacer un paro internacional, el cual tenía como consigna: si nuestro trabajo no vale, produzcan sin nosotras, denunciando no solo los femicidios, sino la ausencia de políticas públicas y el recorte de políticas públicas en Argentina, con el gobierno actual de Mauricio Macri, en el cual las mujeres salimos a denunciar los altos índices de desocupación, los altos índices de femicidios, como te decía, los altos índices de violencia institucional, mediática, que sufrimos constantemente. Y fue muy importante porque hubo mucha gente, y también hay que decir que y denunciar que en la Argentina, después de la manifestación del 8 de marzo, en un día tan emblemático para las mujeres, hubo una cruel represión y persecución a mujeres activistas feministas, por lo cual esto lo denunciamos y fue muy grave.
Si cette année fut différente, c'est tout d'abord parce qu'il y a eu la première grève des femmes dans le monde. Nous scandions haut et fort: si notre travail ne sert à rien, faites-le sans nous. Et on n'a pas seulement manifesté contre les crimes commis envers les femmes, on a aussi manifesté pour que l'État reconnaisse nos droits. En effet, le gouvernement de Mauricio Macri n'accorde que peu d'importance à notre cause. Nous souffrons d'un taux élevé de chômage, nous sommes discriminés par les médias et l'État, et les crimes contre les femmes deviennent de plus en plus courants. Il faut savoir qu'après la manifestation du 8 mars, un groupe de féministes s'est fait arrêter et persécuter par la police. C'est grave.
¿Cómo se desarrolló la manifestación? ¿Había muchos hombres o, al contrario, había una mayoría de mujeres? ¿Cómo se pasó la manifestación? ¿Los hombres se sentían concernados?
Obviamente la mayoría de las que marchamos fuimos mujeres, no solamente mujeres que militamos las causas del feminismo, sino también fue una interpelación a todas las mujeres de la sociedad, muchas que nunca hasta este momento habían participado en manifestaciones y pudieron sumarse. Fue multitudinaria la marcha, no solamente en Mendoza, sino en todo el país. Y sí hubo presencia de muchos varones que acompañaron en la manifestación. Quienes fuimos la cara visible de esa manifestación fuimos las mujeres, pero nos pudieron acompañar muchos varones también ese día. Así que para nosotros también fue importante.
Il est clair qu'on était une majorité de femmes, féministes ou pas. Mais pas seulement. Effectivement, beaucoup d'hommes étaient présents, mais marchaient en queue de peloton. ¿Cuáles son las condiciones de las mujeres en Argentina? ¿Podéis darnos algunas cifras?
¿Quelles sont les conditions des femmes en Argentine? ¿Pouvez-vous nous donner quelques chiffres?
Sí, bueno, como ustedes saben, en la Argentina estamos atravesando una época de, de achique del Estado, de ajuste salarial y de despidos masivos, lo cual ha generado que las condiciones de la mujer obviamente se agraven en estas circunstancias, porque entendemos que para poder erradicar la violencia hacia las mujeres, lo primero que una mujer tiene que tener es independencia económica, para poder tener la posibilidad de optar de irse de su casa, de buscar un lugar donde habitar, un lugar donde criar a sus hijos. Y cuando existe crisis económica, y como lo que estamos atravesando en la Argentina, justamente es cuando la mujer se ve impedida de poder abandonar su hogar, y es en este contexto en el cual se producen muchas veces los femicidios con denuncia previa, por lo cual en la Argentina la situación se ha agravado. No es casual que los índices de femicidios sean cada vez mayores y se estén incrementando. Para darles un ejemplo, el año pasado en la Argentina una mujer era asesinada cada 30 horas. Este dato es, la verdad que es alarmante, porque actualmente en el año 2017 una mujer es asesinada cada 18 horas. Esto claramente demuestra que la violencia hacia las mujeres está incrementando en nuestro país. En el año 2016, solo en el 2016, hubo 290 femicidios en la Argentina, hubo 400 hijos e hijas que se quedaron sin madre. La brecha salarial que existe entre las mujeres y los varones en la Argentina es del 27%. En nuestra provincia hay 21.000 mujeres desocupadas, de las cuales 14.000 son mujeres y 7.000 son varones, es decir, que es el doble de mujeres desocupadas que hombres.
Comme vous le savez, aujourd'hui en Argentine, nous avons un gouvernement qui a réduit le rôle de l'État, qui a diminué les salaires, qui a causé de nombreux licenciements. À cause de tout ça, les conditions des femmes s'aggravent. L'indépendance économique des femmes est primordiale pour éradiquer la violence. Grâce à ça, elles peuvent partir de la maison, trouver un autre logement, un endroit où elles peuvent s'occuper de leurs enfants. Actuellement, la crise économique que nous traversons en Argentine réduit ces possibilités. Par exemple, l'année dernière, une femme était assassinée toutes les 30 heures et aujourd'hui c'est toutes les 18 heures. Pour la seule année 2016, il y a eu 290 femmes tuées et 400 enfants qui se sont retrouvés sans maman. La différence salariale entre les hommes et les femmes est de 27%. À Mendoza, les femmes sont beaucoup plus licenciées que les hommes.
¿Y cuáles creéis que son las soluciones para remediar esta situación? ¿Pensáis que las cosas van a cambiar?
¿Quelles pourraient être les solutions pour remédier à cette situation? ¿Pensez-vous que les choses peuvent changer?
Bueno, sí, creemos que las cosas pueden cambiar. Creo que si algo caracteriza a una mujer militante del feminismo, tiene que ser justamente la de que todas las medidas que emprendemos en conjunto, de manera colectiva, van a producir un cambio en la sociedad. Creo que si no creyéramos que las cosas pueden cambiar, no estaríamos emprendiendo este tipo de acciones desde hace muchísimo tiempo. Por ahí, ¿cuáles creemos que son las soluciones? Exigir que el Estado se haga cargo de esta situación, porque entendemos que es fundamentalmente a partir de políticas públicas que den respuesta a las mujeres ante estas situaciones como la manera, digamos, en la cual pueden solucionarse estas situaciones.
También parece importante aclarar que hay una discusión constante en el seno de la sociedad argentina con respecto a cuáles son las formas, por ejemplo, de las nuevas masculinidades, cuáles son los privilegios que los varones tienen y que hoy, gracias a las manifestaciones multitudinarias, se están replanteando estos privilegios. Vemos un cambio hasta en el lenguaje o la forma de hablar, con una comunicación tratando de que sea no sexista, inclusiva. Y también hoy los colectivos de mujeres estamos reclamando diferentes medidas públicas que necesitamos del Estado. Y una de esas, por ejemplo, es aumentar la participación política de las mujeres, que tengan mayor representatividad. A nivel nacional se está tratando la ley del 50% del cupo en las listas para que estos cargos sean ocupados por mujeres y poder equiparar la representación política. Estamos también llevando adelante o pidiendo que se trate la prohibición de que los hombres que tengan sentencia firme por violencia de género no puedan asumir como funcionarios públicos ni tener cargos representativos. Estamos pidiendo que haya entrega de anticonceptivos. Nos parece importante que haya una educación sexual integral, que en las últimas décadas en la Argentina la hubo, que fue muy amplia, muy completa y que hoy también está siendo recortada. Estamos pidiendo que el aborto legal, seguro y gratuito sea una política pública de Estado y que se pueda implementar en toda la Argentina. Hoy en la Argentina mueren miles de mujeres por año producto de abortos clandestinos, inseguros, y bueno, nos parece importante esto, la educación sexual para decidir, el anticonceptivo para no abortar y aborto legal para no morir.
Oui, on pense que les choses vont changer. Je pense que ce qui caractérise une féministe, c'est de croire que la société peut évoluer. L'État est l'un des acteurs principaux et doit agir. Il y a un débat constant au sein de la société concernant le rôle et les privilèges des hommes. On constate aujourd'hui un changement dans la façon de parler. Ce que nous voulons, c'est une plus juste représentation des femmes en politique. On souhaiterait également que les hommes accusés de violence ne puissent plus exercer. Nous demandons le libre accès aux moyens de contraception, ainsi qu'une éducation sexuelle pour que cela soit une priorité comme ce fut le cas avant Macri. Aussi, chaque année, en Argentine, des milliers de femmes meurent d'avortements clandestins. Il faut une éducation sexuelle pour décider, des moyens de contraception pour ne pas avorter et un avortement légalisé pour ne pas mourir.
¿Y cómo podemos contactar a vuestra agrupación si queremos estar en contacto o ayudar de alguna manera?
¿Cómo peut-on vous contacter si nous souhaitons avoir des informations ou vous aider?
Como les comentaba en un comienzo, al ser un colectivo de organizaciones y ser muchas con diferente representatividad, para poder comunicarse o contactarse es con cualquiera de las organizaciones políticas, sociales, universitarias que forman parte de ella. Nosotras lo somos, estamos a disposición, obviamente. Hay una página web y hay una, al menos en nuestra provincia, que se llama Asamblea de Mujeres Ni Una Menos. Ahí se pueden contactar con todas las compañeras militantes, activistas, feministas, y ayudar es esto que están haciendo ustedes. Nos parece muy importante que las radios, los medios de comunicación del mundo se hagan eco de lo que estamos, de los flagelos que estamos viviendo las mujeres, porque es transversal, no importan las edades, no importa la pertenencia política, ideológica, las creencias religiosas, todas las mujeres de todas las nacionalidades del mundo sufrimos violencia de género en nuestras vidas desde que nacemos hasta nuestras últimas horas, y creemos que poder hacerlo visible a través de los medios de comunicación nos parece importantísimo, así que nuestro agradecimiento por esta entrevista.
Vous pouvez directement nous contacter sur le site web qui s'appelle Asamblea de Mujeres Ni Una Menos. Et de là, vous pouvez contacter toutes les associations militantes. Il est important que les radios et tous les autres médias dans le monde fassent écho de ce que nous vivons, nous, femmes. Qu'importe l'âge, l'appartenance politique, l'idéologie ou la croyance religieuse, toutes les femmes de toutes les nationalités sont victimes des violences de leur premier à leur dernier souffle.
Muchas gracias, Valeria Martinez y Marina Femenia. Por responder a nuestras preguntas. Buenos días y gracias.
Gracias.
Gracias, gracias a ustedes. Un abrazo.
En 2015, en France, 122 femmes ont été victimes de féminicides. Oui, j'ai bien dit féminicide, un tabou souvent caché sous la formule euphémistique de femmes victimes de violences tuées sous les coups de leurs conjoints. On voit bien que ce problème ne concerne pas que l'Italie ou l'Amérique latine, des sociétés souvent considérées comme machistes. En France, nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Il est temps d'en prendre conscience et de continuer à se battre.
Et on continue la lutte avec la rappeuse chilienne Anna Tijoux et son titre engagé, Antipatriarcat. C'est tout de suite sur le 101.1 dans Radio Calliope.
Aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer, se pone de pie. no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, activa, eterna y alegría.
Vous êtes toujours sur le 101.1 et vous écoutez Radio Calliope. Valentine Chapon et Mathieu Poblanc nous parlent de Rita Levi-Montalcini, italienne lauréate du prix Nobel de physiologie et médecine en 1986. Rita Levi-Montalcini a consacré toute sa vie à la recherche, en dépit du fascisme qui voulait cantonner les femmes à l'unique rôle d'épouse et mère.
Rita Levi-Montalcini est una donna italiana molto conosciuta che è nata nel 1909 e è morta nel 2012. Ha fatto degli studi di medicina a Torino. All'epoca del fascismo era impossibile per le donne di fare studi per poter lavorare. Gli uomini pensavano che le donne non potevano essere delle buone madri e delle mogli attente e di avere un lavoro nello stesso tempo.
Insegnerà nel 1947 la neurobiologia, che è la sua specialità, per il quale lei vincerà un premio Nobel nel 1986.
Your Nobel Prize in Physiology or Medicine.
Sulla ricerca sul Nerve Growth Factor NGF, che oggi dà possibilità a delle cure per le varie infiammazioni, processi allergici, ma anche per l'Alzheimer e il cancro. Rita nel 2001 è diventata senatrice della Repubblica, che è una posizione che si conserva a vita. Perché oggi vi parliamo di Rita Levi-Montalcini?
La risposta è che Rita Levi-Montalcini ha giocato un gran ruolo sulla questione della parità di genere. La sua intera vita è stato un inno alla libertà della donna ed ha contribuito a ridurre la disuguaglianza fra le donne e gli uomini. Secondo lei, entrambi sono geneticamente identici, ma lo sviluppo personale delle donne è stato volontariamente frenato, perché per molto tempo non avevano accesso alla cultura.
Toujours sur le 101.1, on vient d'écouter un portrait de Rita Levi. Alors, pour la prochaine émission, nous avons décidé de vous ouvrir donc à toutes les langues. Et pour cela, nous irons à la rencontre d'un artiste chilien, Pedro Sepúlveda, qui travaille sur un projet tout à fait particulier, un projet artistique participatif appelé Proyecto Pregunta, projet question, où il invite chacun d'entre vous, à poser des questions sur un thème qui est donné. Alors, en attendant le mois prochain, nous avons été inspirés par ce projet et nous sommes allés demander aux gens qu'est-ce qu'il demanderait au féminisme ?
¿Por qué te llamamos feminismo y no igualdad de género?
¿Perché le donne che non si depilano sono mal viste e invece gli uomini no?
Ma non è che in questi ultimi tempi sta diventando un po' una moda?
Pourquoi est-ce que vous agissez aussi violemment, parfois allant jusqu'à l'extrême ? Faudrait-il pas juste changer votre mode d'action ?
Pourquoi le féminisme est associé con la idea de anti-hombres ?
Quand est-ce que tu ne seras plus considéré comme un extrémisme, mais plutôt comme une manière de permettre à l'ensemble des genres de vivre plus en égalité et en adéquation dans la société ?
¿Qué pensás de los hombres que se consideran feministas?
Quand est-ce que les gens comprendront que le féminisme se bat non seulement pour le droit des femmes, mais aussi pour les droits de tous et de toutes?
Cuando no necesitaremos más el feminismo.
Qu'est-ce que vous pensez des manifestations récentes en Irlande quant à la loi sur l'avortement?
Potresti tutelare le donne con leggi più adeguate e più severe affinché in tutti gli ambiti, sociale, economico, culturale e familiare, esse possano esprimersi come esseri umani ed esprimere tutte le loro potenzialità?
Chi è che tu oubli e omè depuis le début du féminisme?
Qu'est-ce que les femmes et les hommes peuvent faire pour promouvoir l'égalité dans leur vie quotidienne?
Merci à tous ceux qui ont joué le jeu de poser des questions au féminisme. Des questions qu'on pourrait continuer à poser pendant encore un long moment et qui montrent l'intérêt que suscite ce sujet auprès de nous tous. La lutte pour l'égalité hommes-femmes doit continuer ici et partout.
Alors, je vous sens un peu tous agités sur le plateau. Je vous comprends, effectivement, midi approche. Et c'est donc l'heure de notre recette mensuelle. Aujourd'hui, je vous propose de manger au Chili.
De la côte bretonne à la côte chilienne, Carolina Valladares nous propose une recette typique, le ceviche. Bonjour, on est ici avec Carolina Valladares. Bonjour Carolina.
Bonjour Laura.
Carolina est une amie chilienne qui habite à Brest depuis quelques années. Elle est cuisinière et elle va nous faire un ceviche aujourd'hui. Tu peux nous raconter un petit peu l'histoire ou pourquoi on fait un ceviche aujourd'hui?
Oui, oui. Le ceviche, c'est un plat qui se mange beaucoup dans les pays d'Amérique du Sud. Donc, nous avons au Chili plus de 4600 km de mer, de côte. On a pas mal de recettes avec des fruits de mer et avec des poissons et tout ça. Et la chose qu'on peut dire aussi de cette recette-là, que c'est pas que du Chili. Il y a aussi les autres pays d'Amérique du Sud qui sont au bord de la côte du Pacifique qui font cette recette-là. Donc, notamment le Pérou, ils mangent beaucoup. Et selon les pays, il va changer. Plus au nord, il va rajouter des noix de coco, des ananas, des laits de coco aussi. Donc, c'est aussi quelque chose qui voyage. Et voyage par rapport à la géographie, à les légumes que les gens ils sont à disposition. Donc, c'est aussi beau à goûter toutes les sortes de ceviches qu'on peut trouver. Nous, on va faire les typiques ceviches chiliennes que nous, on va manger dans les marchés ou dans les restaurants ou dans la maison de tout le monde. C'est les ceviches classiques. C'est très basique et c'est très, très facile à faire. Para el ceviche, vamos a necesitar 300 gramos de pescado sin espinas.
Pour le ceviche, on va en avoir besoin de 300 grammes de poisson sans arête.
Una cebolla morada cortada en pluma.
Un oignon rouge coupé en julienne.
Medio vaso de jugo de limón.
Un demi-verre de jus de citron.
Et cilantro picado y cilantro entero.
De la coriandre coupée et de la coriandre non coupée.
Medio diente de ajo.
Une demi-gousse d'ail.
Ralladura de lima y ralladura de limón.
Du zeste de citron vert et du zeste de citron.
Aceite d'oliva.
De l'huile d'olive.
Sal, pimienta.
Du sel et du poivre.
Y si ustedes quieren, pueden ponerle también ají.
Et si vous voulez, vous pouvez mettre un peu de piment.
Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser cortar el pescado en cubos pequeños.
Tout d'abord, on va couper le poisson dans des petits cubes.
Después le vamos a poner sal, pimienta y lo vamos a llevar al refrigerador.
On va mettre du sel et du poivre, on va le mettre un petit moment au frigo.
En la juguera vamos a poner el limón, el aceite, el cilantro, la ralladura de los dos limones, el ajo, el ají, sal y pimienta.
Dans le mixeur, on va mettre le jus de citron, l'huile, la coriandre, le zeste des deux citrons, du sel et du poivre, l'ail et du piment.
Una vez que nosotros mezclamos todos los ingredientes, después colamos este jugo y lo agregamos al pescado junto con la cebolla cortada en juliana y el cilantro picado.
Une fois qu'on a mixé tous les ingrédients dans le mixeur, on va passer par la passoire ce mélange et on va mélanger avec le poisson, les oignons en juliane et le reste de la coriandre.
Una vez que todos los ingredientes están mezclados, tú lo metes en el refrigerador al menos 30 minutos antes de servirlo. Y después lo puedes servir como entrada o como aperitivo y lo puedes acompañar con pan.
Une fois qu'on a mélangé tous les ingrédients, on va pouvoir le laisser reposer au frigo pendant au moins 30 minutes et on peut le manger soit comme un apéritif, soit comme une entrée et on peut le déguster avec du pain si on a envie.
Bueno, y ahora que tenemos el ceviche preparado, te invito a que pasemos a la mesa.
Et maintenant qu'on a préparé le ceviche, on vous invite à table. Merci Carolina.
Je t'en prie Laura.
Vous êtes toujours sur le 101.1 et vous écoutez Radio Calliope, l'émission 100% langue. Merci de nous avoir mis en appétit en tout cas. Maintenant, nous allons passer à une chronique que vous attendez tous. Ça va être présenté par Nourama Anifanti. C'est les événements en langue... Enfin, excusez-moi, pour découvrir les événements en langue étrangère à Brest et aux alentours. C'est la chronique à ne pas manquer, c'est l'actualité des langues. Et c'est maintenant, à toi Nourama.
Bonjour, bien retrouvé. On commence tout de suite avec Babel, un festival poético-musical polyglotte prévu pour aujourd'hui et demain, le 1er avril à Douarnenez. Entrée 6 euros et tarif réduit 3 euros. Le mardi 4 avril, rendez-vous à 20h au Tirnangok à Brest pour des chants en breton. Et si vous avez un instrument, venez avec. Vous avez envie de pratiquer une langue étrangère? Si la réponse est oui, on vous conseille de vous rendre le mardi 5 avril à 18h45 à la Maison pour tous de l'Artéloire de Brest où aura lieu un apéro des langues. Des jeux linguistiques et d'autres animations sont également au programme. Si vous êtes intéressé par l'Espagne, vous ne pouvez pas rater le concert L'Espagne ancienne au carrefour des continents à l'auditorium du Conservatoire de musique de Brest, jeudi 6 avril à 20h. Du vendredi 14 au lundi 17 avril, nombreux événements sont prévus pour le festival Primavera del Tango au patronage laïque de Recouvrance. Vous pourrez assister à des stages, pratiques et démonstrations de maestros de tango argentin. À ne pas rater! Pour ce mois, c'est tout. On se retrouve en avril.
Merci Nourama. Nous arrivons à la fin de notre quatrième émission de Radio Calliope. Merci à nos auditeurs, à nos invités et notre équipe de bénévoles d'avoir participé à la préparation de cette émission. Nous nous retrouvons le mois prochain pour une émission dédiée à l'ensemble des langues, accompagnée une nouvelle fois des étudiants et professeurs de l'UBO.
Alors, pour accéder au contenu de l'émission, vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook et le Mixcloud de Radio Calliope. Avant de nous quitter, nous proposons un dernier portrait de femme engagée en Italie. Il s'agira de Franca Ramé, connue comme l'épouse de Dario Fo, donc qui était prix Nobel de littérature en 1997. Mais elle n'a pas été que cela. Effectivement, elle est comédienne, écrivaine, femme politique, ainsi que militante féministe. Elle dénonça dans les années 80, à travers le théâtre, le viol subi par un groupe d'extrême droite.
Franca Ramé è una famosa e bellissima attrice e autrice teatrale che è anche conosciuta per il suo impegno sociale, principalmente per le donne. Ha cresciuto durante il fascismo, ha vissuto in un'Italia corrotta e dove la donna era sottomessa. Questo contesto ha fatto di Franca Ramé una donna impegnata.
Nel 1903 è rapita, torturata e violentata da cinque militanti di estrema destra. Alcuni anni più tardi ha scritto ed interpretato uno spettacolo che provoca nel paese una vera presa di coscienza sul tema della violenza contro le donne. Questo monologo racconta precisamente le differenti tappe di uno stupro e dà la parola alla vittima.
Nel senso che mi sento svenire non soltanto per il dolore in tutto il corpo, ma per la rabbia, per l'umiliazione.
Questa opera teatrale mostra che le donne non sono colpevoli e non sono sole.
Ha avuto anche un'esperienza in politica dal 2006 al 2008, dimostrando che le donne possono avere un ruolo politico e essere delle grandi artiste che non devono essere solo le mogli di qualcuno. Ha mostrato che la donna può essere bella e attraente senza essere considerata come un oggetto sessuale.
Vogliamo lasciarvi con una citazione di questa grande donna. Ma quello che vorrei continuare a dire alle donne, anche dopo la mia morte, è di non perdere mai il rispetto di se stesse, di avere dignità. Sempre. Ripensando alla mia vita, non ho mai permesso che mi si mancasse di rispetto.
Merci aux étudiants de garder la mémoire de ces femmes engagées. C'est la fin de cette quatrième émission de Radio Calliope en direct de Radio U. On se quitte avec le titre Soy Yo du groupe colombien Bomba Estéreo. Buenos días y hasta la próxima.
Ciao a tutti e buona giornata.
Se voit à l'extérieur. Adieu. Bonheur, plaisir.